18h30 sur RFI et c'est l'heure du débat avec Romain Ouzoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. On s'interroge sur l'utilité des COP ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
Et oui, car les grands messes du climat se succèdent. Il y a 8 jours, la COP29 s'est achevée en Azerbaïdjan sur un accord jugé décevant. Et ce lundi, eh bien, c'est la COP16 sur la désertification qui s'est ouverte en Arabie Saoudite. Est-ce que déjà, il faut s'attendre à un échec ? Notre question ce soir, faut-il supprimer les COP ? Comment rendre la lutte pour le climat pleinement efficace ? Quelles sont les raisons d'être des COP aujourd'hui ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Sébastien Treillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Face à vous, Élise Nakarato, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de campagne climat chez Oxfam France. Et notre troisième invité en ligne avec nous, Laurent Husson, bonsoir.
Bonsoir.
Géologue, directeur de recherche au CNRS et membre du collectif scientifique en rébellion qui organise des altercop, on va en parler évidemment dans ce débat du jour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Je vais commencer avec vous, Sébastien Treillard, parce que j'évoquais cette COP 29. On va en dresser le bilan qui s'est donc déroulé pendant 2 semaines en Azerbaïdjan. Peut-être que vous ne partagez pas le constat d'un accord jugé décevant que j'évoquais. Vous tirez quel bilan de cette COP 29 ?
Pour moi, cette COP 29, j'avais peur qu'elle soit pire. C'est-à-dire qu'au moins, on a un accord. On est sur la ligne de crête entre ce que les pays du Nord étaient capables de mettre sur la table en termes de moyens financiers, vu les orientations politiques actuelles de ces pays, et puis les besoins massifs des pays du Sud. Donc on est à la limite de chaque côté, à l'extrême limite, hein, parce que je pense que même les 300 milliards, ça va être difficile, les 300 milliards de dollars par an que les pays du Nord ont promis à 2035.
C'est le grand engagement.
Ça va être difficile de les tenir, parce que les tendances ne sont pas bonnes. Et donc faire des promesses qu'on n'arrivera pas à tenir, ça peut être extrêmement dangereux. Évidemment qu'il faudrait qu'ils en mettent plus, hein, mais pour l'instant, les conditions politiques me paraissent difficiles. Et puis les pays du Sud avait plutôt besoin de l'ordre de plus d'un millier et de milliards.
C'était quasiment quatre fois plus que ce qui a été acté.
Quatre fois plus que ce qui a été acté. Et plutôt, si possible, avec des dons que des prêts, enfin avec de l'argent qui soit. Et donc on est vraiment sur la ligne la plus fine possible, la seule ligne existante qui pouvait un peu rapprocher les deux. Et c'est donc extrêmement décevant, notamment pour les pays du Sud.
Pourquoi on ne pouvait pas faire plus alors que, voilà, on connaît l'enjeu de la lutte pour le climat ?
Eh ben, on peut pas faire. Enfin, pour l'instant, c'est pour les pays du Nord qui ont déjà des problèmes internes de financement de leur économie, etc. On voit des conditions politiques qui se tournent plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur dans beaucoup des pays.
Mmh. Élise Nakarato, est-ce que vous êtes d'accord sur ce bilan de la COP 29 ?
Moi, je pense qu'on pouvait faire plus. Je pense que cette COP, nous chez Oxfam et de manière générale les organisations de la société civile, on pense que c'est un hold-up en fait des pays du Nord qui en fait ont organisé leur insolvabilité. Vous dites on a fait le max de ce qu'on pouvait donner de la part des pays du Nord par rapport aux besoins des pays du Sud, mais en fait on ne s'organise pas. Quand je dis on, c'est nous, pays du Nord, donc qui sommes historiquement responsables du changement climatique, qui avons construit notre croissance économique sur la crise climatique et donc qui aujourd'hui devons payer notre dette climatique envers les pays du Sud. Nous organisons notre insolvabilité. Comment ? Eh ben, en ne créant pas de nouvelles recettes. Effectivement, dans le cadre actuel de l'économie actuelle, on ne peut pas faire plus. Par contre, il y a énormément de moyens et il y a plein d'organisations qui réfléchissent à comment réorganiser, comment aller chercher de nouvelles recettes. Ça peut être auprès des entreprises privées, notamment des entreprises qui créent leur modèle économique sur la crise climatique. Je pense aux entreprises des énergies fossiles, mais pas que. Je pense à certains modes de transport maritime, aérien, qui aujourd'hui sont très peu taxés. Donc, il y a des recettes à aller chercher. Nous ne nous sommes pas organisés pour aller les chercher. Et donc, effectivement, aujourd'hui, en termes de recettes internes des pays du Nord, on ne peut pas faire plus. Mais on pourrait faire autrement.
Un hold-up, hein, vous dites, en parlant de la COP29, une escroquerie mondiale. C'est ce que dit Oxfam sur son site internet, Oxfam, dont vous faites partie, évidemment. Laurent Husson, on ne vous a pas encore entendu sur ce bilan de la COP29. Comment expliquer ? On a le sentiment que chaque COP qui arrive s'annonce toujours compliquée. On sait par avance, semble-t-il, qu'il y aura un accord à minima. Comment expliquer cela et est-ce que ça se vérifie à chaque fois ?
Ouais, ça se vérifie tristement à chaque fois, en fait. Et je crois que c'est important de constater que si la question elle est amenée sur RFI, une radio de grande audience, c'est que le constat d'échec, il est des COP, il est quand même largement partagé. Et cette incrédulité qui est devenue complètement légitime parce que. C'est une sorte de vaudeville avec une théâtralisation, une distribution des rôles. Ça faisait 6 mois qu'on nous racontait cette COP, on nous racontait par le menu ce qui allait se passer. Et effectivement, ça s'est passé comme tel. Alors même si on a mis un peu de piment avec l'éléphant Trump qui potentiellement allait tout retourner, c'est pas ça qui s'est passé. C'était entièrement prévisible. En fait, la raison, évidemment, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que c'est parce que c'est structurel au COP qui fait qu'elles sont difficilement, on fera mieux que ces, que, comme dit Sébastien Traillet, on fera difficilement mieux que, ouais. Que ces engagements. C'est qu'on est coincé là-dedans pour des raisons structurelles qui font qu'on a une représentativité des partis. Alors, quelles sont ces partis? Il faut s'interroger sur ce qu'elles représentent. Elle ne représente pas les citoyens du monde, elle représente une certaine forme de gouvernance, mais qui conduit inexorablement à cet échec. Une raison, hein, c'est le consensus. Alors le consensus, je pense que c'est un mode qui est souhaitable, mais pour autant que les participants regardent à peu près dans la même direction. Quand les points de vue sont orthogonaux, forcément, ça nivelle par le bas. Et ça laisse toujours une priorité au statu quo. Donc, c'est ce qui se passe en général, c'est ce qui fait qu'on est toujours coincé dans ce statu quo, finalement.
Laurent Husson, justement, c'est intéressant, ce statu quo qui bloque, qui entrave, semble-t-il, les COP. Est-ce que vous diriez, finalement, que la représentativité des COP, c'est-à-dire des dizaines, 55 000 personnes qui étaient à la COP 29, il y en avait 85 000 à la COP 28 il y a un an à Dubaï, est-ce que c'est la qualité et le défaut des COP aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas, moi, je ne me suis jamais rendu sur place, mais néanmoins, je pense que tout le monde ne parle pas de la même façon, en tout cas, dans ces COP. Le discours est quand même probablement prompté. Ça, c'était bien vu à l'année dernière à Dubaï, où les ONG en particulier s'étaient plaints d'être complètement éloignés de la décision, éloignés même géographiquement, puisque à plusieurs kilomètres de l'endroit où ça se passait. Donc, la représentativité, elle est pas distribuée sur ces 80 000-50 000 personnes.
Bien sûr.
Voilà, donc je pense que c'est important d'entendre ça, hein, qu'il y a certaines paroles qui sont plus écoutées que d'autres.
Sébastien Traillère, est-ce qu'il faudrait écarter, par exemple, ça a beaucoup fait polémique, les lobbyistes pétroliers, les lobbyistes d'énergie fossile, qui sont présents, évidemment, qui ont leur mot à dire, qui sont présents à la table des négociations. Est-ce que, au nom du consensus, ils sont là, mais est-ce qu'au nom de l'action climatique, il faudrait qu'ils ne le soient pas ou moins?
C'est sûr qu'il faudrait rééquilibrer les formes de représentation qui sont dans les couloirs des COP. Hein. Les observateurs, cette année, comme l'institut que je dirige, on n'avait qu'un seul badge. Mais c'était parce qu'ils avaient beaucoup réduit. Donc on peut réduire la représentation de certains groupes. La seule chose qu'il faut voir, c'est que parmi les grandes sociétés pétrolières, par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui sont publiques. Les délégations gouvernementales contiennent elles-mêmes un certain nombre de lobbyistes des énergies fossiles. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait un moyen définitif de traiter cette question. Ouais. Moi, ce qui me semble important, c'est aussi de se dire que finalement, on a vraiment besoin d'avoir, pour moi, régulièrement un moment de pression médiatique sur l'ensemble des pays de la planète qui se réunissent pour se dire finalement qu'est-ce qui se passe, qu'avez-vous fait? Et donc moi je pense qu'il ne faut pas s'en priver, ça serait vraiment dommage parce qu'on perdrait encore plus de batailles d'un point de vue du climat. En revanche, il faut être sûr que le rôle qu'on leur fait jouer s'applique au mieux.
Et comment dans ce cadre-là expliquer l'absence de nombreux dirigeants essentiels? Il n'y avait pas Emmanuel Macron, le président français, il n'y avait pas le président américain, Joe Biden, il n'y avait pas le président chinois, Xi Jinping, il n'y avait pas la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il n'y avait pas le chancelier allemand, Olaf Scholz. Ce sont des dirigeants incontournables. Pour cette, vous dites que c'est essentiel, cette COP, mais sans ces dirigeants, elle ne peut pas avoir lieu.
Alors en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir tous les ans un grand ramdam, parce que ça peut être, sinon on perd aussi l'importance du moment. En revanche, la COP de cette année, qui était une COP du financement pour les pays du Sud, aurait dû être plus importante d'un point de vue de la présence des chefs d'État de pays du Nord. Hein. Donc j'essaie de dire, n'ayons pas tous les ans un grand ramdam parce qu'on risque d'y perdre, ayons ça régulièrement pour donner un signal fort politique de voilà comment on va faire pour accélérer ce sur quoi on n'a pas réussi à faire les choses précédemment. Ça marche que si on arrive à faire rendre des comptes un petit peu plus que ça ne l'est le cas aujourd'hui, au pays sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Je rappelle juste qu'avant la COP 28 de Dubaï, il y a eu un exercice qu'on appelait le bilan mondial, je ne vais pas jargonner beaucoup, rassurez-vous, qui était un exercice technique pour dire finalement quels sont les grands enjeux. Et c'est quand même à la faveur de ça qu'on a pu enfin, après 30 ans de négociations, mettre sur la table les grandes questions explicitement de sortie des énergies fossiles, d'efficacité énergétique, de développement des renouvelables. Et c'est là-dessus maintenant qu'on pourrait essayer de demander des comptes un petit peu plus formellement l'année prochaine, à Belém par exemple, quand ça sera la COP30
au Brésil. Mais ça montre le surplace ou les théories des petits pas, on va dire, au mieux des COP aujourd'hui, puisque effectivement, cette transition hors des énergies fossiles qui a été actée lors de la COP28, finalement, sa mise en œuvre lors de la COP29, elle a été reportée.
En fait, ce n'était pas la COP où on devait discuter spécifiquement de sa mise en œuvre, mais c'est vrai qu'il y a eu des stratégies d'obstruction extrêmement visibles aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est bien que ça sorte dans les médias. L'Arabie Saoudite s'est documentée dans des travaux de recherche. Hein. L'Arabie Saoudite a une stratégie d'obstruction procédurière depuis le début de la Convention climat en 1992-94, qui là commence à se voir et ça commence à énerver pas uniquement les pays du Nord. Et donc, il y a eu une objection que le simple rappel des éléments de l'année précédente soit à la COP 29. Mais moi, je trouvais encore plus grave que ça ne soit pas dans la déclaration du G20 qui avait lieu au même moment. Parce qu'en fait, qui sont les pays qui doivent d'abord sortir des énergies fossiles ? C'est les pays du G20. Et je trouve qu'on se trompe beaucoup dans les COP telles qu'elles sont aujourd'hui en pensant que c'est un marchandage entre si vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Sud, y compris les pays les plus pauvres, alors on vous donnera de l'argent. En fait, ce n'est pas ça. On a besoin de leur donner de l'argent parce qu'ils n'ont pas accès à la finance pour se développer et pour se développer d'une manière résiliente d'un point de vue climatique. Par ailleurs, les pays du G20 doivent réduire leurs émissions. Et les deux streams ne devraient pas faire l'objet d'un marchandage comme ça parce que là, on se perd et on ne donne pas du tout le sens qu'il faut aux opinions publiques du Sud qui se disent, mais attendez, eux ne font pas leur boulot de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ils conditionnent leur financement à ces réductions. Ça, c'est pas acceptable quand ça se passe comme ça.
Et quelle responsabilité, évidemment, dans les autres organisations, la lutte contre le changement climatique, est-ce qu'elle doit porter que sur les COP ? Est-ce qu'elle doit porter, on va en parler aussi, sur le G20, le G7, les BRICS, tous ces sommets qui évidemment, réunissent les grands de ce monde. Laurent Husson, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous a dit Sébastien Treillière ? Est-ce que, finalement, il y a trop de sujets à l'ordre des jours des COP et que finalement le ramdam, pour reprendre votre mot, Sébastien Treillière, annuel, il n'est pas souhaitable. Il faudrait quoi ? Une COP tous les 2 ans, tous les 4 ans, avec un ordre du jour différent, avec des invités différents ?
C'est tellement que la question est posée. Ça a coupé un instant. Du coup, j'ai entendu que partiellement sur quelle solution en fait, comment faire.
Est-ce que la COP ne doit plus avoir lieu tous les ans et est-ce que le format doit évoluer ?
C'est un peu la question. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'elle est aménageable ? Est-ce qu'elles sont aménageables, ces COP ? Probablement que non, en l'état, elles ne sont pas aménageables, parce qu'on l'a déjà dit, hein, la représentativité des parties, elle est complètement discutable, puisque ce sont les États-nations qui sont représentées. Évidemment, bien sûr, on l'a mentionné, qui sont cornaqués par des intérêts particuliers, nationaux ou privés, mais du coup, cette représentativité fait qu'il faut imaginer autre chose. Pourquoi faire ça tous les ans ? Sur les ans, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut imaginer qu'elle diminue en prédominance médiatique au profit d'alternatives. On peut imaginer, par exemple, des COP alternatives avec ce qu'on pourrait dire des contributeurs de bonne volonté, c'est-à-dire qui regardent dans la même direction et qui soient OK avec le consensus que 3 degrés n'est pas acceptable. C'est pour l'instant le seul consensus qui prévaut à la COP29, c'est que 3 degrés, c'est faisable finalement. Donc si on réunit ces gens-là en parallèle, OK, ce sera pas, il n'y aura pas un consensus mondial, mais néanmoins, ça peut faire des leviers qui seront très intéressants.
Bon, alors je vous vois venir, est-ce que vous pouvez parler des alter-COP Vous êtes membre du collectif scientifique en rébellion qui organise des alter-COP. C'est quoi des alter-COP et est-ce que ça peut répondre à notre question ? Est-ce qu'il faut supprimer les COP ? Est-ce qu'il faut les remplacer par des alter-COP ? Est-ce que ce sera plus efficace ?
Alors, pour les altercops, c'est pour l'instant, évidemment, c'est celles qui ont été organisées, celles qui a été organisée, puisqu'en réalité, que l'an dernier, là, pour la COP28, c'est évidemment marginal pour l'instant. Néanmoins, ça a permis de poser des bonnes questions et d'avoir des débats sur la façon dont on pouvait imaginer ce que seraient des COP souhaitables. Et donc, de chercher finalement une gouvernance climatique. Celle-là, elle n'est pas remise en question, le fait qu'il faille une gouvernance climatique. C'est évident, mais simplement de discuter de la légitimité et qu'elle soit réellement démocratique et surtout inféodée aux objectifs écologiques et sociaux.
Concrètement, elles prennent quelle forme, ces altercop?
Pour l'instant c'est mignon tout plein, hein. c'est 100 personnes dans une salle non chauffée, hein, dans une gymnase non chauffée. C'est pour l'instant embryonnaire. Mais néanmoins, je pense que c'est un creuset de réflexion qui, dans notre imaginaire en tout cas, il aimerait se répandre et prendre de l'ampleur. Pourquoi pas, ce serait.
Voilà, pourquoi pas faire grossir ces altercopes en complément des COP actuelles. C'est ce que propose Laurent Husson. Notre question ce soir, est-ce qu'il faut supprimer les COP alors que la COP 16 sur la désertification s'est ouverte aujourd'hui en Arabie Saoudite, 8 jours après la fin de la COP 29 qui s'était achevée en Azerbaïdjan. Laurent Husson est géologue, directeur de recherche au CNRS, membre du collectif Scientifique en Rébellion qui organise ces altercopes. Sébastien Treyer, également invité ce soir du débat du jour, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et Elise Nakarato, responsable de campagne climat chez Oxfam France. Alors, j'aimerais vous entendre à présent, vous, Elise Nakarato, sur les potentielles alternatives à ces COP, puisqu'on a entendu Sébastien Treyer évoquer, on va développer là-dessus évidemment, un ramdam qui n'a peut-être pas besoin d'avoir lieu tous les ans. Laurent Husson qui évoque des altercopes en alternative. Vous en pensez quoi? Est-ce que les COP aujourd'hui, elles doivent d'abord se réformer, ou est-ce qu'il faut les supprimer, comme le pose notre question ce soir, pour trouver des alternatives?
Alors, moi, je pense que les supprimer, c'est un peu une position une proposition de pays riche qui a d'autres alternatives. Je m'explique. Tout à l'heure, vous disiez, il y a quelques instants, est-ce qu'il ne faudrait pas discuter de ce sujet dans les G20, dans les G7, etc. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus discuter de ces sujets dans ces cercles-là. Par contre, ce sont des cercles qui ne sont accessibles qu'à un tout petit nombre de pays. G20, G7, donc certains pays les plus riches du monde, OCDE, etc. Donc, c'est des cercles qui ne donnent pas la parole à tout le monde.
Et les pays en développement, clairement, n'ont pas accès à ces
cercles-là. Exactement. La COP est aujourd'hui le seul endroit où l'ensemble des pays a accès, a le droit à la parole. Et c'est là aussi où on voit des coalitions de petits États insulaires, des coalitions d'États qui ont un intérêt ou une problématique commune. Donc c'est extrêmement important que cet espace-là existe, puisque nous, en tant que pays riches, nous avons d'autres espaces. Ces pays-là n'en ont pas d'autres. Par contre, ça ne veut absolument pas dire que c'est suffisant. On a bien sûr besoin d'une réforme des COP, je pense, de leurs objectifs et aussi de leur manière de fonctionner. Leur manière de fonctionner, effectivement, est-ce qu'il faut que les lobbies des énergies fossiles soient là? Non, ou en tout cas qu'ils aient absolument beaucoup moins la parole que c'est le cas d'aujourd'hui. Mais y compris même dans les accès officiels, les accès d'État. Aujourd'hui, il y a certains États pour qui ça coûte extrêmement cher d'aller à la COP, qui ont des petites délégations, beaucoup moins que certains autres États, des délégations qui sont peu écoutées, des délégations qui sont en plus pas du tout paritaires. On a à peu près 35% de femmes dans les délégations des COP. Or, c'est une des populations les plus touchées par le changement climatique, les populations autochtones. Enfin bref, on a besoin d'avoir des délégations officielles et des délégations de la société civile qui ont beaucoup plus la parole. Donc, il faut réfléchir à une répartition de la parole et une répartition du pouvoir qui soit plus égalitaire, puisque aujourd'hui, on voit bien que ça reste encore le pouvoir des pays riches qui est plus mis en avant.
Ça risque pas de créer des grands masses encore plus énormes qu'aujourd'hui, quand je parlais des 85 000 personnes à Dubaï lors de la COP 28.
Moi, je pense qu'il faut moins de personnes au COP. Ouais. On n'a pas besoin de 80 000 personnes pour discuter des questions climatiques. Par contre, c'est quelles sont ces personnes, Et donc, il faut moins de personnes de pays riches, moins de personnes de lobbies. On caricature des fois un peu avec les énergies fossiles, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que ça. Mais aussi, plus de paroles, plus de pouvoir de décision aux personnes qui sont sur le terrain, qui sont les premiers impactés par le changement climatique, donc notamment des pays les plus vulnérables. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a la question de... quand on regarde cette COP 29, qui était la COP sur la question de la justice financière, de comment est-ce qu'on finance la transition, notamment des pays du Sud. Bien sûr, il y a la question de la dette climatique et donc de la justice internationale. Comment est-ce qu'on organise de façon le plus juste possible pour l'ensemble des personnes sur la planète cette transition. Mais aussi, si je regarde d'un point de vue assez cynique, en fait, ne pas... s'organiser pour avoir cette transition juste, c'est aussi se tirer une balle dans le pied, puisque effectivement, si des pays, notamment des pays du Sud, n'ont pas les financements pour faire une transition, par exemple énergétique, vers des énergies décarbonées, eh bien c'est aussi sur l'ensemble de la planète que ces conséquences vont retomber. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une vision commune.
De vase communicant.
Voilà, une vision stratégique commune. Et aujourd'hui, ça manque un petit peu. Chacun arrive avec ses intérêts, ses ambitions par pays ou par groupe de pays. Et malheureusement, l'ambition collective et l'intérêt collectif, il est un peu perdu.
Je vais vous poser une dernière question pour rebondir sur ce que vous dites très rapidement. Mais est-ce que ça montre pas ce que vous dites, que les COP ne sont plus adaptées en nos temps actuels trop clivants pour justement répondre à ces besoins si différents?
En tout cas, c'est ce qui s'est vu, notamment la COP 29, c'est que la situation géopolitique, avec les nombreux conflits qu'on a dans le monde, a exacerbé les tensions. En fait, on arrive un peu à un double mur. Il y a d'une part, on arrive dans les négociations climatiques au moment où on a pris des engagements. Ça fait 10 ans qu'on a signé l'accord de Paris. Donc, on arrive au moment où on a pris des engagements, on a pris des objectifs, etc. Ouais. Là, on arrive dans le dur du sujet. Il faut mettre en place, il faut trouver les financements, il faut mettre en place les politiques. Donc, c'est le moment où tout le monde commence à tourner un petit peu et à tourner autour du pot. Donc, on arrive dans le dur du sujet et là, les gens reculent. Et puis, il y a aussi, il y a effectivement cette question de la situation géopolitique qui
pèse dans les discussions.
Exactement, notamment dans les inégalités nord-sud et dans la question des conséquences du colonialisme et du néocolonialisme qui a été un peu au cœur des sujets de la COP 29.
Alors, l'accord de Paris, c'est intéressant que vous avez cité, qui a été quand même conclu lors d'une COP, donc ça montre aussi l'utilité de ces COP. C'était en 2015 à Paris, lors de la COP 21, mais duquel Donald Trump... que Donald Trump a quitté lorsqu'il a pris ses fonctions lors de son premier mandat, qui pourrait à nouveau quitter l'accord de Paris sur le climat au nom des États-Unis avec ce deuxième mandat. Sébastien Treillière, est-ce que là, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est peut-être clé pour gagner la bataille climatique? C'est contraignant. Et en ça, est-ce que les COP ne peuvent pas répondre à cet enjeu-là parce que les COP ne sont pas contraignantes, puisqu'elles sont sous la houlette de l'ONU, où la contrainte ne fait pas partie de l'ADN des Nations Unies, dirait-on.
Ben effectivement, c'est-à-dire même le Conseil de sécurité ne fait pas forcément... Enfin, on voit bien les contraintes au niveau du Conseil de sécurité, qui devrait être un organe où les choses deviennent obligatoires avec une forme de police du monde. Ça n'existe pas, la police du monde. On le voit bien sur d'autres sujets. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même que la COP, elle produit aussi du droit international. Sinon, les Saoudiens ne mettraient pas autant d'énergie à éviter qu'on redise une fois encore qu'il faut se transitionner en dehors des énergies fossiles, excusez-moi le mauvais français. Mais donc cette énergie qu'ils mettent là, c'est parce qu'en fait, ça va avoir une portée soit juridique, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où la société civile peut aller dans les tribunaux et les juridictions plutôt nationales pour aller porter le faire de ce qui a été négocié, par exemple, dans l'accord de Paris, mais aussi parce qu'en fait, ça donne aussi le ton dans un certain nombre d'investisseurs, par exemple. Et donc, il y a une portée. Moi, ce qui me semble, c'est que la géopolitique s'invite aussi dans les COP parce que la transition vers une économie décarbonée et les impacts du changement climatique sont en train de rebattre les cartes économiques et politiques sur la planète. Et la Chine l'a très bien compris. Elle investit beaucoup plus tôt que tous les autres dans les véhicules électriques, les renouvelables, etc. Et donc, ces rapports de pouvoir changent et c'est normal que ça soit très géopolitique. Et donc maintenant, ce qu'il faut aussi quand même qu'on arrive à faire, c'est qu'on ne soit pas uniquement dans un affrontement, un jeu de posture Nord-Sud, qui a du sens du point de vue de l'héritage historique, de la responsabilité historique des pays du Nord, mais qui d'une certaine manière ne parle plus des pays qui ont le pouvoir d'agir. La Chine, elle a le pouvoir de réduire ses émissions qui sont très importantes, elle a un pouvoir financier énorme, elle a des technologies qu'elle diffuse sur toute la planète, et puis d'une certaine manière, elle est presque aussi un modèle de développement pour les autres. Ce pouvoir d'agir-là, il faut qu'elle l'assume à un moment.
Et en même temps, ça pose la question de est-ce que finalement les actions climatiques, elles ne sont pas d'abord menées au niveau national, puisque la Chine, elle est premier pollueur mondial, mais 40% des engagements climatiques, quasiment championne du climat, selon certains. Vous n'avez pas répondu à ma question sur la contrainte. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, pour répondre à la crise climatique, ça ne peut que se passer sous la contrainte? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que ce soit dans un autre cadre que les COP?
En fait, j'ai cru répondre à votre question parce que je ne vois pas comment on pourrait imposer une contrainte par un mécanisme.
Mais qui ne serait pas onusien.
Mécanisme non onusien de faire respecter une contrainte par un pays qui n'en veut pas, c'est le commerce, en plus de l'armée, hein, pardon de le dire de manière un peu brutale. Ouais. Et donc, dans le commerce, ça marche. Mmh. Et donc, en partie, ce qui est en train de se passer sous les radars, mais les pays du Sud l'ont remarqué, c'est des mesures, ce qui s'appelle pour les pays du Sud, les mesures commerciales unilatérales. Et donc là, effectivement, on commence à avoir l'idée que c'est par le commerce qu'on pourra essayer d'avoir des éléments de contrainte d'autres pays. Mais vous voyez bien que c'est très compliqué à faire appliquer. Il faut que ça se négocie dans un cadre universel et pas de manière uniquement bilatérale ou unilatérale.
Laurent Husson, en écho à tout cela, est-ce que vous diriez que finalement la bataille climatique, elle serait gagnée par les COP, par les G20, par les G7, par les sommets des BRICS, par les alter-COP également, éventuellement, que vous connaissiez bien? Est-ce que ça montre que ça doit s'inscrire dans un tout, les COP, et que ce n'est pas une seule réponse, et qu'il ne s'agit pas de les supprimer, mais de faire avec les autres organismes qui existent?
La question de les supprimer, encore une fois, elle est mal posée. C'est les supprimer en échange de quoi, en fait? Si on répond pas à cette question, si on pose pas ça comme prémisse, on peut pas. C'est difficile d'y répondre.
J'ai l'impression qu'en vous écoutant, il y a pas vraiment d'alternative évidente à la place des COP. L'idée est de faire avec les COP.
Ou de faire avec les COP, mais qui soient profondément changées. Alors, je ne sais pas si elles mériteraient encore de s'appeler COP, puisque les partis seraient probablement plus les mêmes, avec une position plus proche de ce que mentionnait Elise Nakarato. Puisqu'on voit bien les enjeux qui sont. On voit bien les blocages qui sont liés à la structure actuelle, oui. Mais du coup, oui, la question est difficile à répondre en tant que telle. Oui, c'est en échange de quoi? Qu'est-ce qu'on met à la place? Et je pense qu'il y a des solutions, oui, effectivement.
Est-ce que vous croyez, je veux dire, dans l'addition des décisions qui peuvent être prises lors des sommets internationaux en complément des décisions qui peuvent être prises lors des COP? Est-ce que vous croyez à ces vertus-là? Ce cercle vertueux.
Pour l'instant, on a du mal à y croire, hein, sincèrement. Vous avez commencé par lister les trois COP du moment. On ne s'attend pas. On voit bien que ce sont trois échecs. Hein. Donc, il faut réinventer une gouvernance mondiale de climatique qui fonctionne différemment. Et encore une fois, on revient à cette histoire de la représentation.
Elise Nakarato, donc rendez-vous à la COP 30 au Brésil.
Oui, j'entends M. Husson qui dit qu'il a du mal à y croire. Moi, je pense qu'on n'a pas le luxe de ne plus y croire. Ouais. En fait, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont impactées. Et quand je dis impactées, c'est-à-dire qu'il y a des morts au quotidien. Il y a des personnes qui perdent leur maison. Il y a des personnes qui perdent énormément de choses face aux conséquences de la crise climatique. Donc, on n'a pas le luxe de ne plus y croire. Donc, il faut remettre le métier à l'ouvrage. Par contre, si on se dit que les COP vont résoudre la crise climatique, on sera toujours déçus parce que ce n'est pas leur rôle. Mmh. C'est un des éléments, et vous avez raison, c'est un des éléments dans ingrédients dans le gâteau total de résoudre la crise climatique. Mmh. Et les COP, c'est un instrument onusien qui concerne les États, mais il y a aussi effectivement les entreprises qui ont leur rôle à jouer, les citoyens qui ont leur rôle à jouer. Donc, c'est une partition globale où chacun doit trouver sa place.
Et on va rester sur ces mots, hein, un des ingrédients dans le gâteau pour résoudre la crise climatique. On va rester sur cette note optimiste concernant les COP. Il ne faut pas les supprimer, vous nous dites, vous trois. Merci beaucoup, Elise Nakarato, responsable de campagne climat chez Oxfam France. Sébastien Treillard, merci, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et merci à Laurent Husson qui souhaite encore réagir, mais c'est déjà la fin de ce débat. Merci à lui, géologue, directeur de recherche au CNRS, membre du collectif scientifique en rébellion. Allez, un coup d'œil à la pendule dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir, et puis ce sera Afrique Soir Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes.
On vous retrouve dans 30 minutes, quel programme ce soir?
Nous reviendrons sur la tragédie de Nzérékoré, hein, un match de foot qui a dégénéré, des bousculades ont éclaté dans le stade de cette ville du sud-est de la Guinée lors de la finale d'un tournoi en soutien au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le dernier bilan fait état d'au moins 56 morts. Nous irons ensuite au Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko annonce avoir choisi de rester à la tête du gouvernement plutôt que de devenir président de l'Assemblée nationale, coupant ainsi court aux spéculations sur son rôle après la victoire de son parti aux législatives anticipées. Nous parlerons aussi du déplacement de Joe Biden en Afrique, le président des États-Unis qui avait promis de se rendre sur le continent pendant son mandat. À 6 semaines de son départ de la Maison-Blanche, il tient donc sa promesse. Lundi, il a passé quelques heures au Cap-Vert avant de se rendre en Angola, où les États-Unis financent un projet de très grande ampleur.